Le vaisseau traversait l'espace dans un silence de mort. Il filait, tranquillement, à travers des cieux qu'aucun humain n'avait explorés auparavant. Sa coque, d'un marron métallisé, était en parfait état. De chaque côté était peint en grandes lettres blanches le nom du navire, l'Arche. Les coursives étaient baignées dans un silence froid et glacial. Soudain, les cylindres de métal et de verre se mirent à vibrer et les puissantes lumières installées au plafond s'allumèrent. Vous émergez de votre sommeil cryogénique alors que l'Arche s'immobilise face à Eden. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un podcast Gros Games dédié à Fragments Haute Sphère. Je suis aujourd'hui avec Valériane.
Bonjour.
Bonjour Valériane. Et Céline.
Bonjour.
Et on va se lancer dans une campagne de Fragments Haute Sphère. On va commencer aujourd'hui par le prémisse. Qu'est-ce que Fragments Haute Sphère ? Donc Fragments, c'est un jeu de rôle narratif sans maître du jeu, dans lequel vous allez piocher des cartes mots qui vont vous permettre de faire avancer l'histoire. Donc on va tous piocher des cartes mots successivement et on va devoir créer des histoires, un fragment d'histoire à partir de ces mots, en sachant qu'il y a des pictos et des informations sur les cartes qui nous disent si notre fragment d'histoire doit être positif ou négatif pour l'équipe. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre ?
Non, ça me semble assez clair.
Non, c'est bon.
Parfait. On a chacun tiré au sort notre personnage. On va le dire après l'introduction de cette partie. Vous vous réunissez autour des écrans holographiques et Eden apparaît. L'amiral Suleiman prend la parole et vous rappelle les caractéristiques de cette planète choisie pour devenir le refuge de l'humanité. Il s'agit d'une planète au climat moins diversifié que la Terre, principalement tropicale, avec un effet de serre important. Son atmosphère contient plus d'azote que l'atmosphère terrestre, mais devrait être respirable. Il s'agira cependant d'être prudent au départ afin d'éviter tout risque de contamination par des pathogènes inconnus. Eden est protégé par un bouclier magnétique similaire à celui de la Terre, à première vue. Vous assistez à la forte présence d'orages magnétiques puissants, surtout au niveau des pôles. Olympe, le satellite naturel d'Eden, présente une taille impressionnante, pouvant cacher selon sa configuration 20% du ciel. Pour l'instant, seuls quelques militaires et scientifiques ont été réveillés. Vous avez pleinement conscience d'être enfin dans votre mission. Reconstruire une nouvelle humanité dans un environnement familier, mais pourtant terriblement différent, et sans aucune connaissance du danger qui vous y attend. L'enjeu de cette partie, réaliser des prélèvements utiles et donner le feu vert pour le débarquement et la construction du dôme Haute Sphère. Voilà qu'on a... Voilà, c'est pas rien.
Bonne mission.
Ouais, une bonne mission. Céline, je vais t'essayer de présenter ton personnage.
Alors, moi je suis Nash Olson. Je suis membre de l'unité du colonel Bowman. J'ai un tempérament froid, observateur, et je dispose d'une bonne intuition.
Valériane ?
Alors, moi, je suis Jensen. Je suis membre d'une autre unité militaire. Je suis spécialisée dans les missions de protection. Et je suis courageuse, loyale et compétente.
Très bien. Et moi, je suis le colonel Jack Bowman. C'est mon personnage préféré du roman. Du coup, j'ai voulu le prendre. Et donc, je suis militaire de terrain expérimenté, habitué des zones de conflit. Je suis un leader charismatique, très attaché aux membres de mon unité. On est également accompagné de personnages non-joueurs pour aller sur, faire la mission de reconnaissance sur Eden. Donc on a avec nous Moutia Banake, qui est ingénieur en chef responsable de la partie génie civil de la colonie. Donc c'est un scientifique, il est compétent, serviable et efficace. Dans l'équipe de Colonel Bomal, on a également Francisco Baya, qui est un militaire vif et extraverti, très compétent. On a Zhang Chang, qui est spécialiste des explosions et qui est assez efficace et introverti, donc l'opposé de Baya. Et on a deux scientifiques, on a le docteur Vanessa Fulton, qui est une scientifique brillante, qui cumule des expertises en biologie, linguistique, ethnologie et dans d'autres domaines également. Elle présente des capacités d'analyse incomparables, mais elle est peu douée pour les relations humaines. Et on a Laurine Kappa, qui est une scientifique spécialisée en astrophysique et exobiologie, et qui présente des capacités de concentration hors du commun, ainsi qu'une excellente intuition. Elle est sociable et avenante. En gros, c'est un peu l'opposé de Fulton. Elle est brillante, mais elle est ouverte, elle papote. Fulton a un peu du mal à comprendre un peu ce qui se passe, comment on réagit, etc. Donc voilà. On y va, on se lance ?
Allez, c'est parti.
Valériane, je te laisse tirer la première carte, qui est la carte péripétie. Vas-y.
Alors, la zone muette. la navette de reconnaissance pénètre une zone nuageuse. Soudain, tous les appareils de repérage se brouillent. L'équipe est déposée en urgence sur le flanc d'une montagne. Le pilote vous indique qu'il viendra vous chercher dans la clairière située à 5 km d'ici, en dehors de cette zone muette. Vous portez une combinaison technologiquement très avancée, avec un casque intégral n'entravant pas vos mouvements, ni votre vue. Vous découvrez, après quelques minutes de marche, un village constitué de constructions archaïques qui semble abandonné. Révélez la carte édénienne si vous les rencontrez.
Tintintin. Céline, veux-tu commencer la partie ?
Waouh.
Non, comme tu veux. Hein.
Quelle pression. Ok. On voit ce village, on décide de s'approcher pour voir ce qu'il y a exactement. Et au loin, on voit une étendue d'eau. Et on se dit qu'on va aller voir ce que c'est comme étendue d'eau et peut-être faire des tests pour voir si elle est potable ou pas.
Je suis assez d'accord avec ça. Et ouais, je connais Bowman, c'est moi qui donne mon avis. Non, je suis plutôt d'accord. Enfin, je suis très d'accord. Mais je me dis qu'il ne faut peut-être pas qu'on parte tous comme ça.
Mm-hmm.
Donc, je serais chaud vu que toi, tu es Nash Olsen. Tu suggères de faire ça, je suis assez d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de vote. Sauf si vraiment vous êtes en...
Non,
vous me dites,
non,
hein.
Non.
Et donc, moi, je mettrais bien Nash avec une scientifique.
Ouais.
À voir qui tu veux venir avec toi. Fulton, elle est plutôt biologie, linguistique. Mais exobiologie, c'est plutôt Kappa.
Oui, bah on va envoyer Kappa, je pense.
Kappa.
Oui.
Donc,
elle va venir
tu
avec
pars lui. Avec Kappa.
Ouais.
Et par contre, je me dis qu'il faut peut-être un militaire de plus avec toi, parce que nous, on est déjà deux militaires.
Ouais, tout à fait, ouais.
Oui.
Donc, soit tu prends soit Chang, soit Baya avec toi, si tu le souhaites.
Eh ben, on va prendre Baya avec nous.
Allez, c'est parti. Donc, on fait deux groupes. Un groupe constitué de Francisco Baya, du Dr. Fulton, du Dr. Kappa, pardon, et de Nash Olsen. Donc, deux militaires et une scientifique.
Mm.
Et le reste, on reste ensemble.
Ouais.
Et on va peut-être explorer le village, on va voir.
Ouais, tout à fait.
Alors. Donc, oui, donc là, on voit le petit groupe qui s'éloigne, direction de l'étendue d'eau. Et nous, on commence à passer de maison en maison pour essayer de voir. Donc, c'est des petites huttes faites en terre. Tout est ultra... Enfin, tout est très simple. Il y a un peu d'art naïf. C'est assez primitif. Il n'y a pas grand-chose à trouver. On voit qu'il manque... Enfin, il y a des restes de bouillie qui indiquent qu'il n'y a pas très, très longtemps, il y avait sûrement des individus qui étaient là en train de se nourrir ou en train de manger. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément abandonné. On ne trouve pas grand-chose. Mais en tout cas, il n'y a rien qui nous montre qu'il y a une technologie avancée parmi cette civilisation sur place. Voilà.
On continue d'avancer dans le village. Effectivement, le village semble pas abandonné, mais on ne croise par contre personne à la ronde. On décide du coup de s'éparpiller peut-être un petit peu dans le village pour trouver récolter en fait le plus d'indices possible en fait qui pourraient nous donner des éléments en fait sur comment vivent ces gens, ces animaux, on ne sait pas trop. Et moi, en fait, j'avance à un moment donné vers une hutte et je me rends compte que sur l'une des parois, il y a des traces un peu bizarres qui sont dans une couleur assez vive, qui ne me disent rien. Et du coup, je décide d'appeler un scientifique pour pouvoir faire des prélèvements efficaces. Donc, je demande au docteur Fulton de venir m'assister à ce moment-là.
Alors, nous, on s'approche du coup de l'étendue d'eau. Pendant que Baya, en fait, fait ses... non, pas Baya, le docteur Kappa, pardon, fait ses prélèvements pour faire du test de l'eau et tout, nous, on observe... tout ce qui se passe autour, en fait, ce qui peut se passer autour. Mais je sais pas, on a une sensation un peu bizarre, en fait, l'impression qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a quelqu'un autour qui nous observe aussi, mais on les voit pas. On a beau regarder de partout, on voit rien, mais on sent une présence.
Ok, ben moi je vois qu'il y a des prélèvements qui sont faits dans le village, hein. Je suis dans le village avec vous, et je sais pas pourquoi, pareil, j'ai une sorte d'intuition, je vous contacte, parce qu'on a des casques, je vous contacte et je vous demande, je réfléchis, est-ce que on est en zone muette en fait?
On est en zone
On est en
muette, mais
zone
on
muette, du
s'en
coup
est
je peux
peut-être
pas
pas
vous
encore rendu
contacter,
compte.
ouais, en fait j'essaie de vous contacter, et j'arrive pas à vous contacter,
Ouais.
effectivement, donc je me rends compte que les communications elles passent pas, alors ce que je fais c'est que je monte sur le toit d'une hutte, j'utilise mes jumelles, et en fait, je vois que y a un groupe d'individus assez importants qui s'approchent de votre position. Et j'arrive pas à... Enfin, je vois des créatures bipèdes, et je pense qu'on va pouvoir retourner la carte Edénien pour tout décrire un peu ce que je vois.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'est des petites créatures chétives, évoûtées, à la peau sombre, aux yeux noirs et aux cheveux éparses. Elles sont vêtues de vêtements sommaires, renforcés par des plaques de cuir. Elles semblent fragiles, mais en nombre, on ne sait pas ce que ça peut faire. Et leur façon d'avancer font comme si elles étaient un peu à la chasse, et ça n'a pas l'air d'être... voilà, on ne sait pas
Pas très
trop, voilà.
amical.
A priori, c'est pas trop amical. Donc voilà.
Ok. Tout à notre recherche et à nos prélèvements, je me rends compte en fait soudainement que Bowman est monté du coup sur une hutte et que en fait il fait des signes pour nous rapatrier vers sa position. En fait, je me rends compte qu'effectivement il y a quelque chose qui bouge au loin. Alors moi, je suis au sol, donc je me rends pas compte. Exactement de ce qui se passe, mais je décide très rapidement de laisser tomber en fait les prélèvements. J'oblige le docteur Fulton à ramasser son matériel du coup à nous rapatrier vers la position. J'essaye de rentrer en contact avec le vaisseau qui est censé, enfin la navette qui est censée venir nous chercher, et je me rends compte à ce moment-là que je n'ai pas accès aux communications.
Donc, je vois que tu as compris, vous vous rapprochez tous de moi et je me dis qu'il faut agir vite. Comme tu es une experte en protection, je te demande si tu peux accompagner en fait Banaké et Fulton à la prairie qui est à 5 km où on doit retrouver le vaisseau pour arriver à retrouver une communication assez rapide. Pendant que Chang et moi, on avancera en fait en mode commando jusqu'à la zone pour essayer d'extraire et de protéger nos compagnons.
Ouais, tout à fait, ouais. Pas de
Ok,
souci.
cool. Bah on fait ça, c'est parti.
Avec Baya, on est très en alerte en fait sur ce qui se passe autour, et là on commence à voir justement plus une masse de petites créatures qui arrivent de la forêt ou un peu plus loin. Du coup, on dit à Kappa de vite se dépêcher. Donc elle prend son dernier sa dernière fiole, et on commence à s'écarter parce qu'on se fait attaquer par les petits Edéniens. Avec des lances et tout, et donc on se décale rapidement. Et au moment en fait où ils arrivent proche de l'eau, il y a des espèces de tentacules qui sortent de l'eau et qui chopent certains Edéniens. Nous, on a eu le temps de s'écarter assez pour ne pas être attrapés, mais ça s'est pas joué à grand chose. On les entend un peu couiner, les Edéniens, et ils commencent à reculer un peu en fait pour éviter de se faire attraper, et ils ont l'air vraiment paniqués, mais en même temps ils savent quoi faire. Du coup, bah, nous on se dit qu'on va retourner vite vite au village et à la prairie pour retrouver les autres.
Ok, alors bah nous on est avec Chang, on était en train de descendre jusqu'à la zone d'eau, jusqu'au plan d'eau. On entend des hurlements, on voit effectivement quelque chose d'assez gigantesque, des tentacules qui se lèvent au-dessus des arbres où on est. Donc ça crée une grosse diversion, mais en même temps c'est hyper dangereux ce qui se passe. Et quand on arrive proche de la forêt, on n'a pas le tour de voir ce qui se passe. Enfin, on voit juste de l'eau qui gicle, des tentacules, on voit d'entendre des hurlements. Et en fait, on voit à une centaine de mètres, vous qui rentrez dans la lisière de la forêt en courant. Et on vous rejoint le plus vite possible. L'idée, c'est de regagner la clairière. Voilà.
On entend des hurlements du coup à l'arrière sur la position de nos collègues, mais les ordres sont clairs, il faut avancer, se mettre à l'abri. On est dans une situation extrêmement dangereuse et périlleuse. Je sens Fulton qui commence à s'éparpiller, à paniquer. Donc là, je lui crie des ordres d'avancer et de courir sans se retourner. Tant pis pour ceux qui restent derrière, c'est horrible, mais on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe. Je jette quand même un coup d'œil en arrière. Je vois des mouvements assez énormes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'essaye de rester... La plus sereine possible avec la tête froide. Au moment où je retourne la tête pour continuer à courir droit devant, je vois un arbre qui bouge et qui s'effondre devant nous et qui nous barre le passage. On s'arrête brutalement et voilà.
Très bien.
Bah là, on n'a pas le choix, hein. Faut qu'on court. Du coup on court, on est tous là, tous en vie. Du coup, on se dépêche de rejoindre les autres parce qu'on a entendu un énorme craquement au loin avec des choses qui bougeaient. Les arbres ont l'air de bouger fort aussi. Du coup, on se dit qu'ils sont peut-être en danger. Et en fait, Jensen, elle est toute seule avec les deux scientifiques qui restaient. Donc, il va falloir qu'on se dépêche pour voir ce qui se passe. Donc,
pendant ce temps-là, en fait, on se retourne avec Chang et on voit une partie des Edeniens. En fait, il y a une partie qui s'est fait attaquer, l'autre qui était là. En fait, ils nous ont vu partir et qui commencent à nous suivre. Donc, on est obligé de faire quelques tirs pour essayer de les ralentir. On en touche 2-3. On vise surtout les jambes pour leur bloquer, pour pas qu'ils nous suivent, quoi. Et on avance. En formation assez serrée et régulièrement, un de nous se retourne, tire, on recouvre, il repart, etc. On essaie de faire quelque chose d'assez construit en gardant, comme tu dis, Jensen, du notre sang-froid pour vous rejoindre le plus vite. Donc là maintenant, on est à la moitié de l'aventure, on a et maintenant. Donc on va faire un petit point sur la situation. Céline, Valériane.
Ça se passe pas super bien.
Moi, j'ai l'impression que la planète est un peu hostile pour l'instant. Hein.
Ouais, non, mais il se passe plein de choses qu'on comprend pas forcément, mais en tout cas, on repart rapidement. Mais là, on se retrouve un peu encerclé, j'ai la sensation, sachant qu'on n'est pas forcément proche du vaisseau. Donc il faut trouver un peu la marche à suivre, quoi.
Le seul point positif jusqu'à maintenant, c'est quand même qu'ils ne sont pas tous ligués contre nous, hein, parce que du coup, la grosse bête du lac, là, elle a touché les Edeniens.
Ouais, bah après, c'est
je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais en tout cas...
Je pense qu'ils attaquent n'importe qui.
Oui,
quoi.
Voilà,
là,
c'est ça.
Prédateur,
c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Mais on va voir. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne s'est pas encore retrouvés.
Ouais.
Vous êtes un peu devant et vous êtes fait barrer la route par un arbre. On ne sait pas pourquoi.
Ouais.
Peut-être par le tremblement de terre créé par la
c'est
par
possible.
Le monstre qui sort
c'est
de l'eau
possible,
ou,
tout
voilà.
À fait, ouais.
Et nous on vous rejoint, on en est là et ça sera et ça va être à moi de jouer.
Ouais.
Ta-ta-ta. Ok, alors jusqu'à maintenant en fait on est en train de courir et on vous voit au loin, on vous voit devant l'arbre et cet arbre c'est vraiment un gros truc, hein. c'est pas un petit arbre, voilà, c'est un arbre de plusieurs dizaines de mètres avec un tronc énorme qui s'est effondré là devant vous, donc pour faire le tour c'est pas facile et donc on vous voit au loin et il se met à pleuvoir, des éclairs qui zèbrent le ciel et il se met à pleuvoir. On continue à avancer, on vous retrouve, on se regroupe avec vous, on passe, on tant bien que mal, on arrive à faire le tour de l'arbre, et là, en fait, on se rend compte que 50 mètres après cet arbre, eh ben, c'est grand soleil, que les nuages s'arrêtent comme une sorte de barrière, et voilà, et c'est bizarre. On est un peu stupéfait, mais on n'a pas trop le temps de se poser trop de questions avec les grognements qui arrivent derrière nous et les hurlements un peu simiesques des Edeniens.
Pendant qu'on continue du coup à avancer, j'entends le docteur Fulton qui du coup essaye en fait de tirer un petit peu des conclusions, ou en tout cas d'essaye de comprendre ce qui se passe. Je pense que elle en a tout simplement besoin pour se calmer et essayer de d'avancer. Et dans ce qu'elle dit, elle court et elle souffle en même temps. Elle évoque l'idée que en fait, l'arbre a été un peu comme foudroyé, finalement. Ce à quoi je me dis, mais c'est impossible, en fait. On n'a pas du tout vu d'éclairs venir du ciel, quoi. Mmh. Et là, elle évoque la théorie que, en fait, potentiellement, ça pourrait venir de la terre et non du ciel. Et que, du coup, l'arbre aurait été foudroyé par en dessous. Et effectivement, quand on passe à côté de cet arbre, on se rend compte que, en fait, le tronc est explosé à sa surface, ce qui... malgré tout mon sang-froid, me donne des sueurs froides, car je me dis que cette terre est peut-être bien plus hostile que ce qu'on avait envisagé.
Là, du coup, bah, on observe ça, mais on se dit aussi qu'il faut, vite quand même qu'on se dépêche de retourner. On ne sait jamais, en tout cas, on ne sait pas comment ça peut se passer, parce que tout va super vite. Les changements vont super vite, visiblement. Et donc, on évalue un peu la distance qui nous sépare du vaisseau. Et on regarde aussi si on est suivi, toujours suivi par les Edéniens ou pas. Mais pour l'instant, ils sont quand même assez loin. On va continuer et aller passer à l'endroit où, justement, le temps a l'air un petit peu plus sympa.
Et en fait, donc dès qu'on arrive dans cette zone, déjà de lumière, déjà on est content parce qu'on est ensemble, et surtout on commence à voir au loin la navette qui revient en fait se poser. Grand sentiment de satisfaction de se dire que enfin, on va peut-être s'en sortir, ça va peut-être le faire, quoi.
On s'approche du coup de la navette, toujours en courant. On se retourne toujours de temps en temps pour vérifier où sont les Edéniens. Et on passe du coup cette zone. Et en jetant un coup d'œil, en fait, derrière moi, je sens que le mouvement général commence un petit peu à ralentir, même si certains individus continuent à foncer droit. Et là, à ma stupéfaction totale, je vois un Edénien en fait qui s'arrête un peu comme foudroyé et qui tombe au sol totalement rigide et qui ne bouge plus. Ça crée un mouvement de stupéfaction générale autour de lui. Et là, en fait, de nombreux individus commencent à se faire un petit peu à tomber en fait de la même manière, sans que je puisse m'expliquer ce qui se passe.
Donc, on est stupéfait de voir que les Edéniens, au moment de passer entre l'endroit où il y a le mauvais temps et la lumière, c'est à ce moment-là qui sont comme foudroyés. On a l'impression qu'il y a comme une protection, en fait. Nous, on a pu rentrer là-bas, mais eux, visiblement, ils n'ont pas le droit de venir vers l'endroit où on a posé le vaisseau, vers la clairière. Ça fait que là, vraiment... Alors, je dirais pas qu'on n'était pas soudés avant de partir, mais du coup, il nous arrive vraiment directement des choses assez, assez folles. Et je trouve que scientifique et militaire, on a toujours pas des déboires, mais on n'est toujours pas normalement super copains, on n'a pas exactement les mêmes pensées. Et enfin, les scientifiques nous font confiance et se disent qu'ils ont vraiment besoin de nous. Et nous, de notre côté, on a aussi vraiment besoin d'eux pour essayer de découvrir ce qui se passe. Parce que ça va nous aider à adapter notre stratégie pour pouvoir créer quelque chose sur cette terre, sur cette planète, si c'est possible.
Donc en fait, on se rend compte aussi que on a récupéré nos possibilités de communication. Donc on établit une communication avec le vaisseau se pose, on monte dans le vaisseau, et en fait, le pilote du vaisseau nous dit que tant qu'on était dans la zone nuageuse, il nous entendait pas, c'était pas possible, et qu'en fait, vraiment, il nous avait entendu respirer et échanger entre nous à partir du moment où on était rentré dans la clairière. Donc, peut-être qu'il y a cette zone de champ magnétique qui se crée, ce champ de force, et peut-être des endroits qui sont plus propices à la vie édénienne et qui nous par contre nous protègent plus parce qu'on peut pas, enfin on n'est pas adapté à ce genre de situation, donc c'est compliqué pour nous d'être là-bas, on se sent pas bien, ces monstres vivent là-bas, donc c'est voilà. Mais par contre quand on est dans la clairière, ben on était protégé par un champ magnétique ou je sais pas, enfin c'est un peu bizarre effectivement. Donc on monte dans le vaisseau et puis on décolle pour l'espace quoi, on retourne sur l'arche pour faire le point, parce que même si c'est pas glorieux, on a quand même eu le temps de faire des prélèvements et faire des analyses, ce qui était quand même la mission de ce premier voyage.
On se pose dans le vaisseau, dans la zone de commandement, et la première chose qui s'impose à nous, c'est le silence. Le silence face à ce qu'on vient de vivre, mais aussi face à ce qu'on vient de découvrir et ce qui vient de nous sauter à la tête, quoi. Cette planète est... là, on en a absolument conscience. Elle est extrêmement dangereuse. Et puis très vite... Des murmures commencent à monter au sein de l'équipe, au sein des autres, pour se demander un peu ce qui s'est passé, pour essayer de mettre un petit peu des mots sur tout ça. Et puis, rapidement, une question se pose. Comment se fait-il que des créatures choisissent de vivre dans un endroit, dans ces zones qui semblent un peu muettes, qui semblent extrêmement dangereuses? Comment se fait-il qu'elle préfère vivre dans ces endroits-là plutôt que dans des zones où le climat semble moins versatile et plus confortable? En tout cas, pour l'instant, la question se pose et nous n'avons pas la réponse à cette question.
Cette mission, elle se termine brièvement et puis c'est pas très glorieux. On a réussi à faire quelques prélèvements, mais jusqu'à maintenant, du coup, on n'a pas trouvé vraiment d'endroit satisfaisant pour s'installer ici.
Ouais, mais en même temps, c'est juste une première mission, donc un premier contact avec un environnement qui est quasi hostile, hein, qui est très hostile par rapport à ce qu'on pensait trouver. On pensait trouver une planète habitable mais vide. On se retrouve avec une civilisation déjà installée, avec des créatures qu'on ne connaît pas, avec un système de vie qui s'est adapté à des... Enfin, ils sont adaptés à des conditions de vie qui, pour nous, sont assez compliquées, en fait. Mais ça, le côté positif, c'est que ça nous permet d'avoir accès aux zones où il n'y a pas ces orages magnétiques, pour l'instant. Donc oui, c'était une mission rapide, mais ça, il y a des enseignements positifs et négatifs. Mais dans tous les cas, c'est des enseignements qui nous permettront ensuite de rebondir correctement et dans la suite. Donc, après avoir fait notre compte-rendu au général Souleymane et d'essayer de continuer à envoyer des scientifiques sur place avec des équipes militaires, donc on sera forcément en première ligne vu qu'on va prendre de plus en plus d'expérience afin de continuer nos prélèvements et de voir où on installe Haute Sphère. Après de multiples péripéties, les ressources de l'Arche nous ont permis d'installer Haute Sphère dans une zone protégée des orages électromagnétiques et à distance de la menace édénienne. Haute Sphère est un dôme immense avec des parois blindées permettant d'abriter et de protéger des milliers d'humains. Cependant, le manque d'espace se fera bientôt sentir. Voilà donc pour la première aventure. Mm-hmm. Concis, très simple, bien. On pose des bases. Céline ?
Oui, très bien. Pardon.
Non sans péripéties.
C'est ça.
On a beaucoup couru.
C'est ça. Donc maintenant, ce qui va se passer pour les prochaines aventures, donc on se retrouvera, ou cette fois on va ouvrir une enveloppe de notre choix parmi les 5 enveloppes de la boîte, et on va s'en servir dans une nouvelle aventure avec nos personnages et voir ce qui se passe.
Très bien.
Et voilà, et continuer à découvrir Eden et voir ce que devient Haute Sphère.
Allez. Peut-être voilà. Qu'on courra moins cette fois.
C'est ça.
J'espère, hein, parce que là, c'était quand même chaud. Hein.
Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Prenez soin de vous et à très vite. Salut.
À très vite.
À bientôt.